Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, l'université doit-elle sélectionner davantage ? Des défis considérables, une explosion démographique. Pour sa première rentrée universitaire, Thierry Mandon, le nouveau secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur, a fait le choix de la dramatisation la semaine dernière. Il est vrai que les chiffres plaident en sa faveur. L'université française accueille cette année 65 000 étudiants supplémentaires, et ce après plusieurs années déjà d'augmentation. Alors faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? Côté réjouissance, on peut retenir d'abord le fait que de plus en plus d'élèves sont en situation de suivre des études supérieures, donc un succès en matière de démocratisation de l'accès au savoir, mais aussi qu'en dépit de tous les maux qu'on lui attribue, l'université reste un lieu attractif. Côté inquiétude, et c'est sans doute le sentiment qui domine, il y a le constat d'une institution qui n'arrive plus à faire face à ces arrivées massives d'étudiants, d'autant qu'un certain nombre serait là par défaut, parce que seule la fac a bien voulu d'eux, parce qu'il n'y avait plus de place dans la filière de leur choix. Problème de niveau, problème d'orientation, problème de place. Pour s'en sortir, l'université n'aurait pas d'autre choix que de faire comme les grandes écoles, les BTS ou les IUT, à savoir sélectionner ses élèves. Un récent rapport, bientôt débattu au Parlement, vient de remettre ce vieux sujet sur le tapis en proposant que les bacheliers professionnels soient admis à l'université non plus automatiquement, mais après examen de leur dossier. Ce qui constituerait une rupture avec le principe d'égal accès pour les bacheliers, même si la sélection n'est pas absente, loin de là, du parcours universitaire. Alors l'université doit-elle sélectionner davantage ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, quatre invités. Cécile Bargue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure agrégée de droit public à l'université Paris-Ouest Nanterre. La Défense, vous venez de faire votre rentrée comme un certain nombre d'étudiants. Un certain nombre, c'est le cas de le dire. Il paraît que vous faites cours aujourd'hui devant des amphis de 700 élèves. Vous nous direz voilà ce que vous pensez peut-être de la composition de ces amphis. Pour en discuter en tout cas avec vous ce soir, Bruno Sire, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Université Toulouse 1 à Capitole, qui est une université spécialisée dans les sciences sociales. Vous avez co-signé cet été, au mois d'août, dans Le Monde, une tribune intitulée « L'accès aux masters ». Passe par une plus forte sélection dès l'entrée en licence. Troisième invité, Christian Lage, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du SNETA-FO, le premier syndicat de l'enseignement professionnel. Alors, il y a quelques années, on aurait peut-être trouvé ça étrange qu'on invite quelqu'un d'enseignement professionnel pour parler de l'université. Mais justement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour vous. Vous nous direz d'ailleurs, notamment, si vous êtes d'accord pour que les bacheliers professionnels soient admis sur dossier à l'université. Et puis notre quatrième invité, c'est William Martinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez l'UNEF, premier syndicat étudiant de France. L'UNEF qui, comme chaque année, a publié une enquête SOS Inscription sur des pratiques que vous qualifiez d'illégales des universités, à savoir qu'elles feraient de plus en plus de sélections. Et je précise d'ailleurs que demain, vous appelez à un rassemblement à 17h devant le ministère de l'enseignement supérieur rue Descartes à Paris, avec comme mot d'ordre notamment « ton amphi va craquer ». Ton amphi va craquer, est-ce qu'aujourd'hui, en cette rentrée universitaire, c'est vraiment ça le principal problème, William Martinet, c'est-à-dire d'avoir énormément d'étudiants dans pas suffisamment de place ?
C'est malheureusement un des problèmes de la rentrée. Vous l'avez dit, il y a une évolution démographique qui est importante, plus 65 000 étudiants qui s'inscrivent à l'université, alors que ces universités, non seulement elles n'ont pas de moyens supplémentaires pour accueillir les étudiants, mais c'est même tout le contraire. Cette année, le gouvernement a prélevé 100 millions d'euros sur leur fonds de roulement pour faire des économies budgétaires. Donc forcément, de plus en plus d'étudiants, des universités qui ont de moins en moins de moyens, ça crée des embouteillages. Donc d'abord l'embouteillage au moment des inscriptions, d'où la campagne SOS Inscription qu'on a menée, parce que le droit aux études pour tous les bacheliers qui normalement est inscrit dans le code de l'éducation, malheureusement ce n'est plus une réalité aujourd'hui. Et puis après la période des inscriptions, c'est l'embouteillage dans les amphithéâtres et dans les salles de travaux dirigés.
Cécile Barque, vous avez, du point de vue de cet embouteillage, constaté une différence entre cette rentrée et les rentrées précédentes ?
Alors pas particulièrement en ce qui me concerne, puisque moi j'enseigne, je suis effectivement professeur de droit public à l'Université de Nanterre et j'ai des amphis déjà l'année dernière qui étaient bien pleins, du moins en début d'année. Ce que je constate néanmoins, c'est qu'effectivement cette évolution démographique tend à amener de plus en plus d'étudiants vers l'université, tout simplement parce que, une fois de plus, il me semble, on trahit quand même les missions de l'université et on fait de l'université ce qu'elle n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire essentiellement une variable d'ajustement des flux de sortie du baccalauréat, sans se poser la question des éventuels acquis, des éventuels prérequis pour suivre des études longues et difficiles, qui sont les études universitaires.
Je vois que le président de l'Université Toulouse 1 acquiesce à vos propos, Bruno Cyr.
Oui, nous on a plus 30% d'inscrits cette année, même un peu plus encore en première année d'économie.
Plus 30% par rapport à l'an dernier.
Par rapport à l'an dernier, l'année dernière on avait 900 inscrits à peu près, on est à 1300 cette année, en première année. Alors c'est l'effet Tirol, parce qu'on est l'université du prix Nobel d'économie, qui montre qu'il y a de l'excellence dans l'université française, et donc on est très attractif. Et c'est vrai qu'il y a un moment où c'est la thrombose, si vous voulez. Donc il y a un moment où il va falloir réguler les choses. Et
là, est-ce que vous considérez qu'il y a des étudiants, par exemple, que vous avez admis cette année dans l'université, qui normalement ne devraient pas s'y trouver?
C'est ça le problème, c'est que le constat aujourd'hui, il est catastrophique. Et il ne faut pas uniquement se poser la question des moyens de créer des amphis, de créer des lieux. Ça serait simple si c'était que ça la solution. Mais le constat, c'est quoi? C'est qu'on a 50% des étudiants qui ne passent pas la première année. C'est quand même un échec considérable. Et le deuxième constat, c'est que la France perd pied à l'autre bout du système, et c'est aussi le devoir et le rôle des universités. La France est en train de perdre pied sur la recherche. Regardez les classements internationaux qui montrent la production scientifique, vous voyez que la France perd pied. Donc il est temps de s'atteler à bras-le-corps, sans tabou, à des réformes utiles. Il ne s'agit pas de laisser les gens sur le trottoir, il s'agit au contraire de les guider dans le système pour que le système fonctionne.
Alors on va évidemment pas faire peser toute la responsabilité de ces nombreux étudiants supplémentaires sur les seules épaules du représentant de l'enseignement professionnel ici ce soir. C'est vous, Christian Lage, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, il y a un phénomène sans doute assez récent, enfin qui date de quelques années, et qui tend manifestement à s'amplifier, qui fait qu'on voit de plus en plus de bacheliers des filières techniques et professionnelles se retrouver sur les bancs de l'université. Est-ce que vous considérez, vous, qui représentez donc le principal syndicat de l'enseignement professionnel, que ces bacheliers-là ont vocation à se retrouver à l'université, ou bien est-ce que vous y voyez une forme de dysfonctionnement, non pas peut-être de l'université, mais de l'enseignement supérieur en général?
Écoutez, tout d'abord, on commence par quelque chose qui est intéressant, puisque nous fêtons cette année les 30 ans du bac professionnel, qui, comme dans notre ministère, a été composé à moyen constant, c'est-à-dire qu'on a supprimé 350 000 places de CAP à l'époque, pour le créer. Alors la problématique pour nous est un petit peu différente. Pour nous, il s'agit de voir comment on amène tous les jeunes vers le plus haut niveau de qualification, vers l'élévation de cette qualification. Donc c'est pour ça que nous nous battons pour qu'il n'y ait pas de quotas, qu'il n'y ait pas de logique qui empêche les jeunes d'entrer à l'université. Sauf que nous avons l'axiome de réalisme. C'est-à-dire que pour nous, un jeune qui a suivi une formation en enseignement professionnel ne doit pas se leurrer en s'égarant dans certaines formations universitaires. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il puisse y avoir la voie royale, que nous souhaitons un parcours du CAP pour les jeunes en difficulté avec des passerelles ascendantes vers le BTS. Et derrière quelque chose qui est en train de se monter dans l'université, les licences professionnelles.
Mais puisque vous parlez, pardon, Christian Lage, de ce 30e anniversaire du bac professionnel, est-ce que sa vocation au départ, ça n'était pas de permettre à ceux qui obtenaient leur bac d'être directement opérationnels sur le marché du travail? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une forme de détournement peut-être de ce bac?
Le baccalauréat connaît ce paradoxe, c'est le premier grade de l'université. Sauf que le baccalauréat professionnel a une vocation, une insertion professionnelle. Aujourd'hui encore, 60% des jeunes ont une insertion professionnelle grâce au bac professionnel. Nous, ce que nous demandons, c'est que derrière, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, ce parcours est souhaité par les jeunes quand ils rentrent en bac pro pour aller en enseignement supérieur, qui est phénomène accéléré par la crise économique. Quand vous avez une crise économique, vous avez un besoin de plus de formation, de plus d'élévation de qualification.
Cécile Bargue, est-ce que vous, parmi vos étudiants, vous avez des étudiants qui ont un bac professionnel et qui, soit par défaut, soit par envie, parce qu'on peut aussi, après un bac professionnel, avoir envie d'apprendre le droit public et qui se retrouvent justement dans vos
Alors,
cours ?
Alors, moi je suis dans une situation un peu particulière, qui est une situation relativement confortable, parce que je suis professeur de droit et que le droit en règle générale bénéficie encore d'une certaine aura, ce qui fait que pour 80% de nos effectifs, ce sont des bacheliers généraux.
Le fait que ça bénéficie d'une certaine aura, comme vous dites, ça pourrait justement attirer d'autres bacheliers que les bacheliers généraux, non ?
Alors, c'est certain. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas en droit, autant que dans d'autres matières, le phénomène de fuite de l'université, qui tend néanmoins, malgré la croissance démographique des effectifs, très largement à s'accentuer ces dernières années. En droit, on est encore relativement épargné, moi plus particulièrement, parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'être dans une bonne université. Ceci étant, il me semble que lorsque monsieur dit qu'il faut élever le niveau de qualification et le niveau de formation, il a bien entendu raison. C'est une exigence républicaine, c'est également une exigence d'ordre moral. Est-ce pour autant à l'université de prendre en charge des étudiants dont on sait pertinemment qu'ils n'ont pas les acquis nécessaires à la suivi d'études particulièrement longue et relativement difficile, je n'en suis pas certaine parce qu'il me semble que ce ne sont pas les missions premières de l'université, qui est la production du savoir et sa transmission.
C'est vrai que quand on regarde les statistiques, on se rend compte que seuls 5% des bacs pro, 15% des bacs techno ont leur licence, donc quand ils s'inscrivent à l'université en 3 ans ou 4 ans, alors que c'est 50% pour les bacs généraux, William Martinet.
Mais je crois que les chiffres que vous venez de donner, mais aussi le premier tour de table qu'on a fait, montrent bien qu'il y a un constat indéniable. Là, nous avons un problème en cette rentrée universitaire. On a parlé de l'augmentation du nombre d'étudiants, du taux d'échec, notamment des bacheliers professionnels. Mais la question à chaque fois, c'est quand on est confronté à un problème, quelle réponse on y apporte ? Et ce débat sur la sélection, vous le savez, il n'est pas nouveau. C'est depuis les années 60, la massification du baccalauréat. Depuis ce moment-là, toujours se pose le débat libre accès à l'université ou sélection. Et on remarque même une chose, c'est quand l'université traverse des périodes de crise, que ce débat sur la sélection revient. Donc là, en ce moment, à cette rentrée, oui, c'est une période de crise dans le sens où on a cet afflux d'étudiants dont on vient de parler, l'université qui ne sait pas y répondre, et donc on parle sélection. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois cette réponse, elle revient ? Parce que, désolé de le dire, mais je considère que c'est une réponse un peu de facilité. Dire il faut sélectionner les étudiants parce qu'ils n'ont pas le niveau suffisant, etc., ça permet de transférer la responsabilité vers les étudiants. Leur dire c'est de leur faute s'ils ont un échec, s'ils n'arrivent pas à obtenir le diplôme.
Bah, et ça évite... permet aussi peut-être de les épargner d'un nouvel échec. Certains ont peut-être un parcours justement qui fait qu'ils ont été en échec scolaire et c'est peut-être aussi rajouter une expérience d'échec.
Malheureusement, ça empêche, mais j'espère qu'on pourra en parler ce soir, d'interroger le fonctionnement de notre système d'enseignement supérieur. Et je prends un seul exemple pour les bacs professionnels dont on parlait. C'est quoi la réalité du parcours d'un bachelier professionnel ? Dans l'écrasante majorité des cas, c'est des jeunes qui font le choix d'aller dans les filières professionnalisantes qui sont les BTS et les DUT et à cause de la sélection et du manque de place dans ces filières, il y en a beaucoup qui se retrouvent orientés par défaut à l'université et après on parle du taux d'échec, etc. Donc dans ce système-là, est-ce que la solution c'est de aussi sélectionner à l'université, comme ça on est sûr que ces bacheliers sont nulle part, ou au contraire de dire il faut respecter leur projet d'orientation ?
Puisque les BTS et les IUT sélectionnent, Bruno Cyr, est-ce qu'il faut que l'université sélectionne tout autant ou bien est-ce qu'il faut renverser la proposition et dire c'est aux IUT et aux BTS de ne pas sélectionner ? C'est d'ailleurs ce que propose Jean-Marc Montel, qui est l'ancien directeur général de l'enseignement.
Et il n'a pas fait que des miracles et j'espère qu'il ne sera pas écouté parce que évidemment que ce n'est pas la bonne solution. Bien sûr qu'il faut sélectionner. Pourquoi ? Pas pour laisser des gens au bord de la route. Encore une fois, notre mission de service public, c'est pas celle-là. Mais en revanche, notre mission de service public, c'est de créer une pédagogie qui soit correcte. Et on ne peut pas faire de la bonne pédagogie avec un public hétérogène. Il faut absolument qu'on crée des groupes homogènes. Et l'intérêt de la sélection, c'est ça. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez dans une classe des gens qui n'ont pas du tout les prérequis nécessaires pour suivre et qui vont être en situation d'échec, et d'autres qui vont trouver que ça va trop doucement et qui vont fuir le système, ce qu'on constate tous les jours, pour aller dans des systèmes qui souvent sont très onéreux, ce qui est une catastrophe parce que là, il y a une barrière sociale.
En disant ça, vous allez faire bondir des profs de collège et des profs de lycée qui sont confrontés à des classes hétérogènes.
Oui, mais enfin, vous savez très bien que tout le monde ne fait pas ses études à Henri IV ou à Louis le Grand et que les lycées, sans le dire, font quand même des classes de niveau et font une sélection rampante sans le dire. Donc, il faut quand même ouvrir les yeux. Tout le monde ne va pas avec un bac S dans le lycée de son choix. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse la même chose à l'université. Ok que les gens aient le bac puissent s'inscrire dans l'université, mais pas dans n'importe quelle université et dans n'importe quelle filière. C'est ça l'erreur, parce qu'on les envoie au casse-pipe.
Christian Lage.
Nous sommes confrontés aujourd'hui à une difficulté de la politique éducative, qui d'ailleurs est liée à quelque chose que l'on ignore, mais à l'objectif 2020, qui est un objectif européen. 80% d'une classe d'âge le bac, 50% à l'université, et diminuer à 9,5% le nombre de décrocheurs. On est à 17% en France. Ce qui signifie à partir de là que, si vous voulez, nous, ce que nous disons, c'est quoi? Nous disons aujourd'hui, il y a trois voies de formation: générale, technologique, professionnelle. Nous, nous revendiquons l'égale dignité de la voie professionnelle. Ça veut dire, à partir de là, qu'il faut valoriser les jeunes. Bien entendu, nous sommes parfaitement conscients de leurs difficultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on ait un accompagnement dans la formation. C'est ce que nous avons demandé quand nous avons imposé les 2h30 d'accompagnement personnalisé pour qu'on prépare les passerelles. Après, l'université parle d'hétérogénéité, et vous avez raison. En lycée professionnel, je gère l'hétérogénéité des classes depuis 40 ans, mais avec une pédagogie différente. Nous avons une pédagogie inductive, qui n'est pas la pédagogie déductive du lycée, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai des savoirs que je vais les mobiliser pour créer la règle. Donc peut-être que là, quand on parle pédagogie, on a avancé sur un certain nombre de dossiers. Là encore, quel est l'objectif ? L'objectif pour nous, je le répète, c'est pas que tout le monde entre à l'université. Mais quand vous voyez qu'on est en train de mettre un continuum, un passage, moins 3, de là, du collège, la seconde, à plus 3, la licence. Effectivement, nous, on s'interroge beaucoup, parce que nous n'entrons pas dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui reste pour mes 20% qui n'ont pas le bac, qui ont un CAP? Là encore, je crois qu'il faut clairement poser les questions sur la valeur du diplôme. Et nous sommes très attachés à ce que tous les jeunes aient une insertion professionnelle.
Cécile Barg.
Oui, moi je crois que quand même ce débat tend assez largement à confondre l'éducation pour tous et l'université pour tous. Et je crois que ce n'est absolument pas la même chose. L'important, c'est évidemment de hausser le niveau de formation des jeunes, si vous voulez. Mais pour ce faire, il faut évidemment orienter les jeunes, nos élèves, vers là où ils ont le plus leur place. Or aujourd'hui, à condition qu'il y ait de la place. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les titulaires d'un bac général vont récupérer les places d'IUT et de BTS, quand les titulaires de bac technologique vont en licence. Est-ce que c'est cohérent? Bien sûr que non, ce n'est pas cohérent. Est-ce que c'est praticable? Eh bien non, moi je peux vous dire de par mon expérience que ce n'est pas praticable. Parce que moi j'ai enseigné notamment l'AES en province, où il y avait 50% d'étudiants qui venaient de voies professionnelles et de voies type STG. Et ça a été une catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'habitude de travail, il n'y avait pas les acquis minimales en termes de rédaction, en termes de familiarité avec le travail écrit, avec la lecture. Et puis il y avait, de manière générale, une indifférence assez forte de ces étudiants. Alors moi, j'étais pas très gênée, j'étais en amphi, ils venaient pas. D'accord? Je ne les voyais qu'au moment de l'examen pour signer, pour émarger. En revanche, mes chargés de TD qui étaient chargés de contrôler leur présence, parce que très souvent les bourses sont subordonnées, parce que les bourses sont subordonnées à la présence, eh bien eux, ils avaient affaire à un public effectivement très hétérogène. Mais nous ne sommes pas dans un système secondaire. Tout cela procède d'une secondarisation de l'enseignement supérieur. Or, ce sont deux choses différentes.
Mais attendez, ce que vous dites finalement, est-ce que ça ne revient pas à une forme de remise en cause de ce qu'est le baccalauréat? Le baccalauréat, est-ce que ce n'est pas censé être... valider en tout cas un mode de sélection? À partir du moment où j'ai mon bac, j'obtiens le droit d'entrer à l'université. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses à l'UNEF, William Martinet?
Bien sûr. Pour nous, le baccalauréat, c'est une certification. Avoir le baccalauréat, c'est expliquer qu'on a eu un parcours scolaire, qu'on a un minimum de compétences et de connaissances et qu'on peut poursuivre ses études. Cette logique de certification, donc c'est le cas du baccalauréat, elle est très différente de la logique de sélection qu'on peut avoir dans certaines filières, où le débat de la sélection, c'est pas de dire qu'est-ce que l'étudiant sait ou ne sait pas faire. Le débat de la sélection, c'est de faire un classement et de prendre les 10%, les 20%, les 30% qui sont en haut du panier. Donc le baccalauréat, il a un rôle important et c'est d'ailleurs lui qui a fait la massification des études supérieures.
Donc
et
ce qui vaut, pardonnez-moi William Martinez, ce qui vaut pour le bac, ça vaut aussi pour la licence, ça vaut aussi pour le master 1, c'est-à-dire à partir du moment où on a ces diplômes, ça donne de droit accès à l'échelon supérieur.
Mais à chaque fois qu'on sort de cette logique de certification et qu'on rentre dans une logique de sélection, on fait du tri social. Parce que ça a beau reposer sur des critères pédagogiques, on sait bien quand il s'agit de décider quels sont les étudiants qui sont en haut de la pile par rapport aux autres, on a un biais social. Il y a ceux qui ont le capital social et culturel le plus important. Il suffit de regarder une chose très simple. On parle de sélection à l'université depuis le début. Regardons un système sélectif, très sélectif, qui existe déjà, classe préparatoire, grandes écoles, et regardons quel est le public social qu'il y a dans ces formations. On a deux fois moins d'enfants d'ouvriers dans les classes préparatoires et les grandes écoles que dans les universités. Donc peut-être, il faut se poser une question, un système non sélectif, c'est là où il y a les catégories populaires, un système sélectif, c'est ça qui fait de la reproduction sociale. Et je crois que c'est extrêmement important pour savoir ce qu'on veut faire de notre université.
C'est justement pour ça qu'il est urgentissime de mettre de la sélection à l'université. Pourquoi ? Parce que le système des classes prépa et des grandes écoles à la française est effectivement un système qui fait de la reproduction sociale et je dirais le fait de plus en plus parce que il suffit de regarder les chiffres, l'ascenseur social ne joue pas. Où est-ce que l'ascenseur social joue ? C'est à l'université. C'est à l'université parce que c'est un enseignement qui est financé par l'impôt des contribuables et qui donc est gratuit ou quasiment gratuit pour les étudiants. Donc il n'y a aucune barrière financière à l'entrée à l'université.
Classes préparatoires aussi, monsieur Sia.
Non, les classes préparatoires. Après, les grandes écoles, vous savez comme moi, il n'y a pas une école de commerce à moins de 10 000 euros l'année.
Les classes préparatoires, c'est un système public
qui
coûte deux fois mieux financé par l'État que les universités.
Attendez, vous m'avez interrompu. Il y a un problème de formation aux langues qui est quand même assez discriminant et effectivement qui fait de la reproduction sociale. Ceux qui ont pu aller faire des voyages en Angleterre et les autres. Donc ça, c'est le système sur lequel recrutent les grandes écoles. Et le problème actuel, il suffit de regarder les statistiques, c'est qu'à l'université, comme on veut une soupe unique pour tout le monde, comme on laisse croire avec une grande naïveté aux gens que quel que soit leur baccalauréat, ils vont pouvoir réussir dans n'importe quelle université, parce que c'est ça qu'on est en train de leur dire. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que le baccalauréat, c'est un niveau... Sauf que les baccalauréats, ils ne se valent pas tous. Un bac professionnel et un bac S, ça n'a rien à voir. Les acquis ne sont pas du tout les mêmes. Donc, si vous voulez faire des sciences ou de la médecine, vous avez une chance d'y arriver si vous avez fait des bacs généraux scientifiques. Vous avez zéro chance d'y arriver si vous avez fait un bac professionnel. Ce tri est déjà fait au lycée. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on remettrait les compteurs à zéro ? Ça, c'est une grande question. Et l'université, justement... si on veut qu'elle joue son rôle d'ascenseur social, il faut qu'elle ne dissuade pas les meilleurs de venir chez nous. Il faut que, justement, les meilleurs étudiants puissent trouver à s'épanouir et qu'on ne mélange pas tout le monde dans une même soupe commune qui est dissuasive pour les meilleurs et qui le repousse vers le système sélectif.
Bon, Christian, là, il y a quand même quelque chose de vrai. Il y a sans doute plein de choses de vrai dans ce que vient dire Bruno Sierre, mais en tout cas, l'idée que la sélection, elle commencerait au niveau de l'enseignement supérieur et qu'avant, finalement, il y aurait un accès pour tous à l'école, au collège et au lycée. C'est vrai que quand on regarde dans les faits, on sait bien que la sélection, elle commence bien avant l'entrée à l'université. Pourquoi est-ce que, d'un coup, l'université devrait accepter tout le monde ?
Bah écoutez, c'est très simple. Moi, pour moi et pour nos élèves, l'ascenseur social ne marche plus. Ils sont condamnés à prendre l'escalier. Donc ça veut dire, à partir de là, que... Il y a un certain nombre de difficultés, vous l'avez souligné. Nous, ce que nous prônons, c'est que ces jeunes-là soient sur la voie de la réussite. On a réussi à leur faire retrouver l'appétence pour les études. Ce qui est pas facile quand même, puisque vous n'avez pas souligné non plus qu'en lycée professionnel, ce sont des jeunes qui cumulent un certain nombre de difficultés. Donc, leur donner un diplôme qui est validé. Et ensuite, qu'un certain nombre d'entre eux puissent poursuivre des études, est un élément fondamental et nécessaire. Mais ça veut dire que nous prenons un accompagnement, et c'est pour ça que nous sommes pour que certains BTS soient créés dans nos lycées, pour qu'on puisse avoir une pédagogie. On sait bien ce qui manque à nos jeunes quand ils sont en première année de BTS. Il manque à nos jeunes ce qui leur a manqué pour aller en seconde générale. Donc à partir de là, on va pas faire de miracle, mais comment on peut à nouveau... puisqu'ils vont avoir la motivation, les mettre sur cette voie de la réussite et qu'ils aient le BTS.
Est-ce que la piste de la création d'une nouvelle filière qui serait ce brevet professionnel supérieur qui a été évoqué il y a quelques mois, c'est quelque chose qui vous semble intéressant, Christian Lage, c'est-à-dire qui permettrait
le
justement...
BPS. Alors, le BPS. Le BPS est pour nous une ineptie qu'il faut jeter immédiatement. Pourquoi ? Parce que c'est créer, ce que l'on disait tout à l'heure, une voie de relégation, un fléchage. Le BTS est un diplôme professionnelle. Les référentiels des BTS sont étudiés en CPC, en commission professionnelle consultative, comme nos diplômes. Donc à partir de là, donnons la chance à des jeunes d'avoir un vrai titre qui est installé. Est-ce que vous savez comme moi, puisque William parlait de certification tout à l'heure, combien de temps il faut pour qu'un titre soit reconnu ? 20 ans, 30 ans. Et encore, à partir du moment où le BPS souffre pour nous d'un péché originel, il est dans les mains du patronat du MEDEF, qui est en fonction des besoins de ces entreprises que se crée ce titre en alternance, c'est-à-dire en apprentissage. Donc on est vraiment ici dans un besoin purement égotiste.
Donc on oublie le BPS. Cécile Bargue et ensuite William Martinet. Beaucoup de monde veut prendre la parole ce soir,
oui,
c'est
mais
normal.
Je trouve que ce débat est quand même un peu tronqué parce qu'on oublie quand même que cette politique généreuse qui consiste à accueillir tout le monde à l'université et surtout à rejeter tout type de sélection au motif que la sélection serait nécessairement sujette à un élitiste dévastateur. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit simplement, encore une fois, ni plus ni moins, d'accepter dans nos formations des étudiants qui ont les capacités et les prérequis nécessaires pour suivre des études. Ne pas le faire, ça a un coût absolument colossal. C'est un coût colossal pour la collectivité qui doit financer l'accueil d'un certain nombre d'étudiants, d'un nombre important d'étudiants qui n'ont pas grand-chose à faire à l'université, voire rien du tout. C'est un coût colossal, comme l'avait souligné mon voisin, pour l'université elle-même qui perd ses meilleurs étudiants et qui perd non seulement les bons étudiants, les meilleurs étudiants, mais aussi les étudiants moyens qui fuient l'université. C'est un coût colossal aussi pour les parents qui sont de plus en plus anxieux et qui se tournent vers des formations privées dont on ne connaît absolument pas le niveau et qui coûte parfois très souvent très cher. Il y avait un article dans Le Parisien dernièrement sur ce sujet.
Mais Cécile Bargue, est-ce que ça ne revient pas à dire, par exemple, à un jeune bachelier donc, qui vient d'avoir son bac, de lui dire, voilà, tu es assez, je sais pas, intelligent ou enfin assez formé pour obtenir ton bac, mais tu n'es pas assez prêt pour suivre des études ensuite. Enfin, c'est ça qui est compliqué quand même, à n'importe
mais
quelles études.
C'est pas vraiment compliqué. Ce qu'il faut, c'est encore une fois orienter les étudiants vers des formations qui sont prêtes à les accueillir. Quel sens cela a d'accueillir au sein de l'université des bacheliers professionnels qui généralement viennent à l'université parce qu'encore une fois, ils n'ont pas eu de place dans des formations plus sélectives, même modérément sélectives, comme les STS ou les BTS. Et à ce moment-là, il y a 95% d'échecs. Mais quel sens ça a pour la collectivité ? Quel sens ça a même pour ses étudiants ? Pourquoi les confronter à cet échec absolument dévastateur ?
Bon, alors, je vous rappelle le titre de l'émission de ce soir. L'université doit-elle sélectionner davantage ? On est parti du présupposé que l'université sélectionnait déjà. Et je le disais au début de l'émission, William Martinet, vous avez mener une enquête pour dénoncer ce que vous considérez comme étant des pratiques illégales qui existent ou qui existeraient donc aujourd'hui dans des universités qui font de la sélection sans vraiment le dire.
Tout à fait. Mais pour répondre à votre question, je me permets de rebondir sur un élément qui a été posé dans le débat. Pourquoi est-ce que, avec le baccalauréat, tout d'un coup, on permettrait à tous les jeunes de choisir leur filière ? Justement parce que notre système éducatif, l'orientation de notre système éducatif depuis le collège, c'est une machine à tri social. On a besoin de pouvoir dire à ces jeunes, quand ils ont 18 ans, quand ils sont majeurs, quand ils sont adultes, tu vas pouvoir prendre en main ton avenir, tu vas pouvoir, généralement pour la première fois de ta vie, décider de ton orientation, de ton projet professionnel.
Sauf donc, que c'est peut-être trop tard à ce moment-là.
Qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est pas trop tard. Et ensuite, finalement, c'est le deuxième débat qui a été posé. Une fois qu'on se dit ces bacheliers doivent pouvoir continuer leurs études, c'est comment est-ce qu'on fait pour les faire réussir ? Et donc, par exemple, à l'université, moi, je ne pense pas qu'il faille effectivement faire des voies professionnelles pour reléguer ces bacheliers professionnels ou technologiques dans le supérieur. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est, à l'intérieur des formations, individualiser la pédagogie, c'est pas miraculeux de dire ça, c'est ce qu'il faut faire au collège, c'est ce qu'il faut faire au lycée, c'est ce qu'il faut faire à l'université. Et quand on prend des exemples très, très concrets d'universités qui font des efforts pour faire réussir leur bachelier professionnel, une fois qu'on écarte ceux qui sont orientés par défaut, parce qu'effectivement l'enjeu pour eux c'est d'avoir une inscription là où ils veulent, qu'on prend ceux qui sont motivés dans leur projet d'études, qui ont une vraie formation individualisée, on arrive à monter à 30-40% de taux de réussite. Donc c'est pas miraculeux, mais on se rapproche beaucoup du taux de réussite des bacheliers généraux. Donc quand l'université elle fait un effort, ça fonctionne. Et c'est là où je réponds à votre question, c'est que malheureusement, actuellement, ce n'est pas ce que font la plupart des universités.
Au contraire, je vais justement revenir sur cette question de certaines universités qui sélectionnent. Je vais d'abord laisser réagir Bruno Cyr et je reviens à vous tout de suite.
Oui, parce que nous faisons partie des universités qui ont créé des filières sélectives pour une raison simple,
c'est que la France a un défi majeur qu'il ne faut pas oublier et qui est confié historiquement et génétiquement aux universités, c'est la recherche. Et donc on a besoin d'attirer dans l'université les meilleurs étudiants pour les amener, ceux qui ont le plus grand potentiel, pour les amener vers la recherche.
Mais parce comment vous sélectionnez du coup? Vous sélectionnez sur dossier? Alors, vous sélectionnez, vous tirez au sort, comme ça se passe dans certaines universités?
Je crois qu'il y a deux solutions. Il y a plusieurs solutions simples. Il y en a deux qui sont évidentes. La première, c'est se dire toutes les universités n'ont pas les mêmes vocations. Dans nos deux missions de base, qui sont formation et recherche, le curseur peut être à des niveaux différents. On peut avoir des universités qui se focalisent sur la réussite en licence et d'autres qui se focalisent sur la recherche. Il faut s'habituer à ce partage. Et il faut que ces universités se mettent en réseau. La deuxième solution, c'est de mettre des passerelles. Nous, on souhaite qu'il y ait un escalier, comme c'était très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un étudiant qui sera parti à un moment donné dans une filière professionnelle puisse récupérer une filière générale, mais qu'on le fasse sur la base de ce qu'il a montré, de son appétence pour l'enseignement, et qui sera prouvé, et on lui fera des passerelles. On le fait déjà. On récupère un certain nombre d'étudiants de BTS à la sortie pour les amener dans des filières générales, dans les IAE, etc. Ils finissent très bien à Bac plus 5. Mais il faut qu'on accepte cette idée que c'est pas n'importe qui va n'importe où, et qu'il y a des universités, toutes les universités ne se valent pas. On a besoin dans ce pays de quelques universités qui rivalisent avec ce qui se fait de mieux dans le monde, sinon la France sera reléguée au second rang des grands pays innovateurs. Et ça, on ne peut pas se résoudre à ce système-là.
Bon, William Martinet, je reviens à ma question présidente. Je rappelle que, précédente, vous êtes président de l'UNEF. 54 universités sur 74 pratiqueraient la sélection à l'entrée de la licence. D'après votre dernière enquête, elle n'était que 33 en 2014, 27 en 2013.
Oui, c'est un phénomène qui se développe. Alors, qui a une première raison, c'est la pénurie budgétaire, le manque de places et certaines universités qui réagissent par des pratiques sélectives. Et puis, il y a une autre motivation que finalement M. Cyr a extrêmement bien décrit. C'est une vision élitiste de ce que doit être l'enseignement supérieur et de ce que doivent être les universités. Et donc, il faut des formations où on trie les jeunes et on ne prend que les meilleurs. Mais justement, avec ces pratiques sélectives, on voit très bien les conséquences et la gravité de l'orientation par défaut que provoque cette sélection illégale. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends dire, quand on parle de
illégal, est-ce que c'est vraiment illégal?
Rien n'est illégal chez nous.
En tout cas, mais c'est vous qui dites que c'est illégal. Vous nous avez fait des procès, vous avez tous perdu.
Par exemple, sur les rattrapages, donc vous avez fait un procès, on a gagné, monsieur Cyr. Sur la question des bacheliers, il y a aussi des bacheliers qui ont fait des recours et qui ont gagné. Mais à la limite, c'est pas ça le cœur du sujet. Je disais, on entend parler depuis tout à l'heure de la sélection. C'est pas empêcher les jeunes de faire des études, enfin, pas empêcher les bacheliers de faire des études, mais juste, en gros, on va pas leur laisser choisir dans quelle filière ils veulent faire leurs études.
Et on va être pragmatique, on va les laisser choisir, on va les guider vers la filière dans laquelle ils ont quelques chances de succès.
En donnant les cases à l'avance. Vous faites ce que vous voulez, mais on vous dit quand même dans quelle filière vous pouvez aller. Ce qu'on constate à chaque fois, c'est que quand un bachelier, il est orienté par défaut, c'est-à-dire pas par quelque chose qui correspond à son projet d'études, mais parce que les enseignants lui ont expliqué que c'est là qu'il va falloir aller, etc. C'est ça qui provoque de l'échec. Quand vous dites à un jeune, tu veux faire du droit? Non, désolé, on pense que ça correspond pas à ton profil, à ta motivation, etc. On va t'envoyer dans une autre formation. Et ben c'est là que les taux d'échec sont les plus graves.
Nous, on ne dit pas ça. Nous, on prend tous les étudiants. Dans mon université, tous les étudiants qui veulent venir, on les prend. Sauf qu'on ne les met pas tous au même endroit. Et c'est vrai qu'on a des parcours de double licence, par exemple, où on fait économie et droit, ou droit et gestion, où il y a les deux programmes à faire, 27 heures de cours par semaine en moyenne. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut accéder là-dedans. On ne va pas mettre les gens en situation d'échec. On a des effectifs réduits parce que c'est très lourd à gérer, ce genre de double diplôme. Mais pour ceux qui en ont sous le pied, qui ont une capacité de travail supérieure à d'autres, et ça, c'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent travailler pendant 4 heures, ça leur pose pas de problème, et d'autres qui, au bout d'une demi-heure, commencent à transpirer dans tous les sens. C'est une réalité qu'on vit au quotidien. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même endroit. Il faut mettre des gens qui ont des capacités à peu près homogènes pour les tirer le plus possible vers le haut. Après, parce que vous oubliez une chose, c'est le devoir de recherche. L'université n'a pas une mission seule de formation.
Elle a aussi un rôle, l'université c'est de réduire les inégalités
dans le
plutôt
monde,
que de les développer.
Mais avec réduire les inégalités. Alors battez-vous contre les classes prépa et les grandes écoles. Je ne vois jamais ça dans votre programme.
On ne fait que ça.
Qui nous dit qu'il faut supprimer les grandes écoles?
Pourquoi est-ce que ça tomberait sur l'université?
Alors attendez, Christian Lage, j'ai ensuite promis Cécile Barry.
La question de fond qui est posée, c'est une question qu'on connaît bien dans le second degré, c'est-à-dire qu'on a réussi la massification, on a raté la démocratisation. Et ça continue puisqu'on reproduit cette même logique avec des éléments fondamentaux. La première des éléments fondamentaux, ce qu'on fait mal dans notre école, c'est l'orientation. Au mieux, on fait une information aux jeunes. Il faut leur expliquer clairement ce que ça signifie un parcours, une filière. Et il faut le faire très tôt. Est-ce que vous savez qu'actuellement, on a des jeunes qui voudraient s'orienter en seconde professionnelle, mais on leur dit non, tu vas aller en seconde générale. Ce qui signifie qu'on a un échec, et après, leur seconde, ils arrivent en première en enseignement professionnel. On a perdu un an. Et on a des gens qui sont effectivement sur une situation de difficulté. Le problème, il faut savoir que c'est très grave, un jeune qui échoue à l'université, mais c'est très grave, un décrocheur. D'après le ministère, un décrocheur coûte 200 000 euros par an à la nation. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut continuer à avoir les moyens de ne pas avoir des gens? Il faut faire attention. Vous savez qu'une société va mal quand il y a de plus en plus de gens sur le bord de la route.
Cécile Bargue.
Oui, mais les décrocheurs, monsieur, il y en a plein parmi les étudiants à l'université. Donc le fait d'entrer à l'université ne vous garantit absolument pas contre la possibilité du décrochage, loin s'en faut. Et d'ailleurs, si les résultats de L1 sont aussi faibles, c'est parce que bon nombre d'étudiants, en réalité, abandonnent en cours de route. Et c'est la raison pour laquelle les taux de succès en licence sont extrêmement faibles également. Et ils sont de l'ordre de 50%.
On les a mis dans des endroits où ils n'étaient pas préparés à aller, et donc c'est ça l'erreur. Et il faut leur dire, écoutez, vous n'avez pas fait suffisamment de langue, donc vous n'irez pas en licence de langue, vous n'avez pas fait suffisamment de maths, donc vous n'irez pas dans des licences scientifiques. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître ça. Croire qu'on peut remettre les compteurs à zéro à l'âge de 18 ans ou 19 ans, ça c'est une illusion absolue.
On est presque au terme de l'émission, il y a un sujet dans le sujet qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué, c'est le passage de du Master 1 en Master 2. Alors pour ceux qui, comme moi, ont quitté l'université il y a très longtemps, le Master 1, ça représente ce qu'était la maîtrise, et le Master 2, c'était DEA ou DESS. Il y a un certain nombre alors, d'étudiants qui ont été refusés, c'est-à-dire qui avaient leur Master 1 mais qui n'ont pas pu s'inscrire en Master 2, qui ont fait des recours. Dans certains cas, les plus nombreux, me semble-t-il, d'après ce que j'ai vu, la justice leur a donné raison. Dans moins de cas, la justice leur a donné tort. On attend une décision du Conseil d'État. Est-ce que c'est une décision qui vous paraît extrêmement importante à venir, William Martinet, pour répondre justement à ces questions de sélection ou pas à l'université?
C'est un sujet extrêmement important. On parlait tout à l'heure de la France dans le monde, de la responsabilité des universités. En France, on est en retard en nombre de diplômés de master. On est à 18% d'une génération qui atteint le bac plus 5. La moyenne de l'Union européenne, c'est un petit peu plus de 20%. Donc il y a un objectif de démocratisation du master. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour l'atteindre? Il y a effectivement actuellement cette situation un peu étrange. Donc, vous venez de dire que juridiquement, elle ne tient pas d'une sélection au milieu du master. Donc finalement, maintenant, le débat, il est très simple. C'est est-ce qu'on ramène de la sélection plus forte, plus précoce à l'entrée du master, ou est-ce que, au contraire, on change la réglementation pour que ces étudiants que vous avez cités, qui ont validé leur master 1 et qui se retrouvent sans rien après, ils aient un droit à la poursuite d'études en master 2.
Enfin, juridiquement, elle ne tient pas, c'est pas très clair. Aujourd'hui, Bruno Cyr et ensuite Cécile Barre.
Oui, à ce problème, il y a une solution simple. Et je pense que tout le monde aurait intérêt à ce qu'elle se mette en œuvre. J'espère que ce bon sens l'emportera. La solution, c'est celle-là. Il suffit que chaque université prenne l'engagement d'avoir autant de places en master 1 qu'ils ont de diplômés de licence au niveau L3, au niveau en dessous. Si chaque université affiche ça, mais qu'ensuite on laisse les universités, en fonction des prérequis nécessaires dans leur cursus, dans leur filière, choisir les étudiants qui leur paraissent le plus aptes à le faire. Globalement, le système sera en équilibre, mais les étudiants trouveront pas nécessairement la place qu'ils veulent là où ils veulent. Il faut accepter cette fluidité du système et le système sera réglé. Moi, je pense que il faut mettre une sélection sur dossier à l'entrée des Master 1 avec cette contrainte que globalement dans le système, il y a autant de places en Master 1 qu'il y a de diplômés en L3. Personne ne restera au bord de la route.
Cécile Bargue.
Je crois moi aussi qu'il faut absolument qu'on puisse, en master, choisir les étudiants les plus à même de tirer profit de notre enseignement. Et c'est d'autant plus important que c'est bien en master 1 et en master 2 qu'on peut enfin adosser véritablement l'enseignement à la recherche et donc remplir l'une des missions de l'université qu'on ne peut plus remplir au niveau de la licence. Quant à ne pas sélectionner en master 2, c'est purement et simplement, il me semble, de la folie. Parce qu'un accès non sélectif en master 2 signifie à court terme nécessairement l'écroulement temps des masters les plus réputés. Et le temps qui s'écroule, auront de pléthore de candidatures. Et si les masters 2 s'écroulent, c'est en réalité tous les diplômes universitaires qui s'écroulent avec eux.
Voilà, on verra ce qu'en dira le Conseil d'État dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir joué le jeu. Merci. De la discussion. Cécile Barque, Bruno Cyr, William Martinet et Christian Lage. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours. La télécharger pendant un an et n'hésitez pas bien entendu à nous écrire. Le formulaire, il est sur la page de notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Nafsika Papanikolaou, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la prise de son ce soir Charles Barjou. Demain, la question à 18h20 sera la suivante: y a-t-il encore des acquis sociaux à conquérir? Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kenéen. Bonsoir.